Dynamique Radio.
Dynamique Radio.
Je disais tout à l'heure que chaque pays, en prenant un peu de recul, a une manière de faire aujourd'hui qui se révèle différente. Et c'est ça qui est intéressant d'observer en tant qu'observateur extérieur. Je ne vais pas mettre de la passion. Zaza, j'aime beaucoup ta passion, mais je vais
pas
mettre de la
passion. Oui, moi, je suis quelqu'un de très passionné.
Je vais pas mettre de la passion. J'essaye de prendre simplement une analyse objective des faits. Et si vous voulez...
Mais en revanche, je suis d'accord avec toi sur le fait que la période actuelle permet de voir comment chaque pays... traite intrinsèquement le problème et comment il réagit. Et tous les pays de l'Union européenne réagissent différemment, et malheureusement.
Oui, ça c'est
et
vrai.
Et on peut le regretter.
Comment
y a... Comment se fait-il qu'il n'y ait pas une union européenne?
Alors, comment se fait-il aussi que l'Union soit imposée par quelqu'un qui n'est pas une élue? Bon, il faut quand même voir que, actuellement, la présidente de la Commission n'est pas une élue et qu'elle décide, je dirais, de donner des munitions, elle décide de faire tout un tas de choses qui impliquent les différents pays sans que les citoyens les décident.
Cela dit, on a quand même l'impression que chaque pays fait un peu, si je peux me permettre, on a quand même l'impression que chaque pays fait un petit peu ce qu'il veut, quoi.
Et c'est pas notre intérêt,
parce
finalement.
Que quand tu vois...
Pas franchement.
Bah, ouais. Écoute, quand tu vois comment réagissent les Polonais, qui, eux, donnent énormément... Quand tu vois, nous, on donne
avec
moins et on donne beaucoup moins de chars, etc., alors qu'on met les chars polonais, les chars allemands en avant.
On n'a pas une politique commune.
Nous, on donne pas... Nous, au final, on est un peu les derniers de la classe, on donne pas...
Non. Je crois qu'on a donné
des munitions,
on a donné du personnel.
Voilà, mais je veux dire, quand tu vois les photos des chars alignés avec les drapeaux, il n'y a pas de chars français. Hein.
Non, mais pour l'instant, les chars français sont
exemple,
un petit peu. La génération des chars allemands qui a été donnée, ce n'est pas la génération des chars français.
Ah non, c'est oui, ça, je suis d'accord.
Donc,
on a la chance d'avoir les meilleurs chars
dans le monde. Des chars français, si tu veux.
Oui, mais on ne les donne pas.
On les garde pour nous.
Bah,
on peut difficilement, pour l'instant, les donner. D'abord, parce qu'il n'y en a pas beaucoup, et que la technologie nécessite une formation de quand même d'un certain nombre de.
Et ça coûte très cher, d'ailleurs, d'en fabriquer également.
Alors, les quelques Hammer ou les quelques Léopard qui ont été mis en place. Bon, alors ce qui me paraît, par contre, si on veut faire un aparté, si on prend du recul aussi au niveau stratégique, qu'est-ce qui se passe d'important il y a 15 jours? C'est la déclaration britannique. Qu'est-ce qu'ils ont déclaré par rapport au char?
Ah, je sais pas.
Et qu'est-ce qu'ils ont décidé de leur propre chef? Les Britanniques ne font pas partie de l'Europe, nous sommes d'accord.
Mm-hmm. Ne font plus partie de l'Europe.
Non, oui. Qu'est-ce qu'ils ont décidé et qui est vraiment presque scandaleux?
De battre en retraite.
La fourniture d'obus? Ouais.
Je sais pas, j'ai pas su l'actualité, là.
À l'uranium. Des obus,
je peux pas parler dans le
des obus à l'uranium enrichi, voilà. Appauvri.
Oui.
Donc, décider, c'est un geste politique, idéologique fort. C'est-à-dire, OK, les Anglais disent, on vous fournit des obus. C'est des obus qu'on n'a pas utilisés, qui sont prêts et qu'on ne veut plus utiliser, nous.
La Seconde Guerre mondiale?
Non, mais qui ont été faits depuis. Ouais. Mais effectivement, il faut savoir que c'est des obus extrêmement perforants.
Oui.
Mais quand ils sont perforants, eh bien effectivement, ils dégagent une poussière d'uranium. Et donc, avec des risques de radiation.
Ah bah oui, complètement. Oui.
Donc, forcément. Avoir cette volonté d'avoir un triple discours. On est contre, effectivement, je dirais, les Russes qui veulent attaquer les centrales nucléaires à tel endroit. En même temps, on livre, je dirais, de l'uranium appauvri. On fait un peu tout et n'importe quoi. Bon, oui, moi, je veux dire qu'en prenant du recul, on se dit, mais c'est quoi ça?
Et alors, où tu vas en
Donc, ça, c'est de la provocation, il faut le dire, hein, clairement. Sachant que c'est quand même. Je vais donner un autre exemple aussi en prenant du recul. Depuis le début du conflit, donc le 28 février de l'an dernier.
Oui.
Deux jours après, donc c'était le 26 février, le débat. Le 28 février, Zelensky a demandé à négocier avec Poutine. Au mois d'août, il a redemandé à négocier avec Poutine. Et encore une autre fois, il a demandé à Poutine. Trois fois,
ça a été
opposé par les Anglais et par les Américains. Le Premier ministre anglais, de quoi il se mêle,
ouais,
a été dire à Zelensky, je vous interdis de négocier avec les Russes. Aujourd'hui, c'est historique.
Alors.
Prenons du recul. Nous, Français, qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi les Anglais, entre guillemets, la perfide Albion, il faut quand même le dire, qui depuis, historiquement, je dirais, n'a jamais voulu que la France soit puissante. Il faut bien aussi avoir du recul. Quel est l'intérêt des Britanniques? C'est que la France ne soit pas puissante.
Oui, sauf que
quel est l'intérêt des Allemands? Quel est l'intérêt des Allemands? C'est que la France ne soit pas puissante.
Mais sauf
que c'est trop tard.
Parce que la France était...
a été
longtemps le pays le plus peuplé.
Bah voilà.
Et surtout, nous avons la plus grande surface
puissance de...
en Europe.
Maritime.
Non, mais la plus grande surface en dehors d'Ukraine.
Ouais.
Mais la plus grande surface. Et c'est vrai pendant des années. Et c'est vrai que c'est une certaine puissance, mais cette puissance, elle, c'est aujourd'hui, elle a été très attaquée. La France a été dépouillée.
Donc toi, colonel, selon toi, c'est quoi la démarche à suivre pour protéger la France
que,
alors,
il faut qu'un certain nombre de Français se réveillent, que d'abord, vis-à-vis de leurs élus, les sénateurs et les députés, on leur dise, écoutez,
arrêtons
de faire n'importe quoi, arrêtons de, je dirais, de gaspiller tout le trésor de la France.
Mais est-ce que tu penses que c'est d'un intérêt ?
Le trésor de l'élevage, le trésor de l'élevage. Le trésor de l'électricité, le trésor électrique, le trésor électrique,
militaire,
le trésor de réseau militaire. Électrique que nous avons, qui est extraordinaire, le trésor
mais
SNCF.
Mais alors comment
réseau...
tu fais
la France actuellement?
Il faut que
alors,
les Français se réveillent.
J'ai un
et
mot puis, dur.
Et
ça
un,
passe
et,
par la rue.
Ils interpellent.
Ça passe par la rue.
Ça peut passer par la rue, mais ils interpellent surtout leurs députés et leurs sénateurs. Il faut savoir qu'une lettre envoyée à un député ou à un sénateur pour dire, écoutez, arrêtez
c'est 100 fois.
De faire ça, eh bien, ça compte pour 1000 personnes.
Ouais. Bah moi, je vais vous dire un mot final. La France actuellement, quand on voit tout ce qui se passe, c'est une putain qui se vend.
C'est pas tout à fait ça. Non, c'est pas tout à fait ça. Moi, je pense que nous sommes vraiment souvent.
On prend des fessées.
Nous sommes très naïfs.
Non.
Pour revenir à l'époque des Grecs.
On se vend. Malheureusement, on perd nos valeurs. On est en train de se vendre.
Disons qu'on se prostitue, si tu veux dire, effectivement.
Bah voilà.
Avec tout un tas de compromis mauvais. Voilà. Et donc, ça veut dire. Alors, ça, c'est deuxième chose.
Parce qu'il faut remonter
alors,
l'histoire.
Ça, on va, effectivement, prenons du recul.
Il faut de l'argent.
On prend du recul, ça veut dire quoi?
Il faut remonter l'histoire.
Moi, je suis au-dessus de la France et je regarde.
Voilà.
Et je vois un pays qui perd ses valeurs. Mmh. Je vois un pays qui se calque
qui a devenir un émir.
À droite, à gauche, aux migrants qui arrivent, aux migrants qui viennent pas, à ci, à ça, on répond
à l'Allemagne qui refuse,
à l'Allemagne, à l'Amérique, voilà. À l'Europe, voilà. Et on perd nos valeurs.
On menace les
et
uns,
là,
on menace
tous
les autres.
Gens sont perdus, donc il y a une révolution, et pour moi,
il y a
on
une
perd
confusion.
Nos valeurs.
Il y a une confusion.
On est en train de se prostituer.
Je pense qu'en fait,
alors, c'est
ce
quoi
que
la
tu
solution
dis, je pense que ce que tu dis, c'est qu'effectivement, on manque de repères et que les gens sont dans la confusion.
Mais les gens,
les gens ne sont pas rassurés.
Puis non,
les gens sont ignorants.
Ils écoutent ce qu'ils ont envie de prendre.
Ouais,
quand il y a des élections, ils vont à droite, à gauche. Les médias jouent ce qu'ils veulent jouer. Et les Français suivent.
Je te donne un exemple.
La question se pose de savoir si un certain nombre d'élites en France n'ont pas pour intérêt uniquement de garder le pouvoir en faisant que la plupart des Français, à travers l'éducation nationale, restent des idiots.
Mais oui,
on peut se poser la question.
Coluche l'a dit il y a très longtemps déjà.
Mais si vous êtes ministre,
on est en plein dedans.
Je sais pas, je dis n'importe quoi, mais vous êtes ministre des Affaires étrangères en France.
Oui.
Tout d'un coup, il y a un mec de la CIA qui vous dit je vous propose d'ouvrir un compte offshore, je vous mets 3 millions d'euros dessus, par contre, vous faites la politique.
Voilà.
Et autre chose,
c'est la France.
Si vous refusez de faire cette politique, on vous bute.
Il y en a un qui
est donné,
on te bute pas, on te menace. Si
on te menace.
Bah, la France, elle va foncer.
Non, mais toi, à titre personnel, t'es ministre.
Ah,
qu'est-ce que tu fais? T'as le compte offshore,
c'est ce qui s'est passé par Alstom avec les Américains.
Mais de toute façon, les ministres, il n'y en a aucun qui a des couilles pour défendre le pays.
C'est ce qui s'est passé avec
Alstom. Des couilles pour eux personnellement.
Est-ce que nous avons en France des leaders d'opposition qui disent, est-ce qu'on a des vrais leaders d'opposition qui ont du recul?
Non, mais c'est une blague, Stan.
Quand tu as des leaders de l'opposition qui gagnent 4 à 5 000 euros par mois.
Mais la grosse blague.
Pas sûr. Au niveau stratégie militaire. Au niveau stratégie.
Ah,
le général de Villiers.
C'est vrai.
Oui, c'est pas son frère.
Ah non, je parle pas de
du général.
Du général de Villiers.
Ouais, le général de Villiers.
Oui, d'accord, j'ai eu la chance de rencontrer qui est un monsieur quand même.
Lui, il a des couilles.
Donc, d'accord ou pas, colonel?
Voilà.
Ce qu'on entend là. Voilà. C'est le fait de mettre en place des militaires au pouvoir.
Et ben pourquoi pas?
Ben pourquoi pas?
Ben non, mais c'est. Ah, mais
comme,
moi,
je vais vous dire une chose.
Je dis pas non, je dis.
Ce qui me fait peur.
Ce
qui me fait peur, c'est que tout ce qui se passe à l'heure actuelle fait un chemin.
Jean
pour le parti de Marie Le Pen.
Bien sûr.
Parce que
mais
les gens
Mais on est d'accord, mais c'est le problème de Marie Le Pen.
Je voudrais reprendre un petit peu de
recul. Elle ne fera pas mieux, et tu le sais.
Ben non, mais les gens vont voter pour elle, parce qu'ils en ont marre.
J'aimerais. Oui, mais ça fait 10 ans qu'on
parce qu'ils en ont marre de toutes les actions syndicales qui se passent à l'heure actuelle.
Oui, colonel. Colonel, il veut dire.
Oui, mais elle prend des voix à chaque fois. À chaque fois, son lit, il est prêt.
Oui.
Et là, la couette, elle est tirée.
Mais le problème, c'est qu'un.
Moi aussi, ma couette,
elle n'est pas tirée.
La couette, elle
est peut-être pas assez.
Et Jean-Claude qui va tirer sa couette ce soir.
Le lit a commencé à être installé de l'époque de Mitterrand. Et chaque succession, on a préparé
c'est
le lit.
C'est le vote de contestation.
Colonel, vous voulez dire quoi?
La prochaine fois, il sera élu.
Mais regardez les programmes, et regardez les gens du Front National. Il n'y a pas de gens super ultra compétents pour diriger un pays.
Tu écoutes les gens autour de toi.
Mais on l'entend depuis les Gilets jaunes.
Je pense qu'elle passera.
Mais moi, je suis pas sûr.
Est-ce que je peux dire quelque chose?
Je pense que le colonel.
Dans Aristophane, il y a une pièce extraordinaire qui s'appelle Les Grenouilles.
On passe des oiseaux.
Et les grenouilles, c'est un petit peu ce que j'entends. C'est quoi.
Exactement.
Alors, je vous aime beaucoup, mais. Allez. Prenez encore du recul, s'il vous plaît. Oui. Ne soyez pas comme les grenouilles qui croisent dans tous les coins.
Prenez
un avant de l'île.
C'est le débat.
Oui. Alors, je reviens, puisqu'il y avait une allusion sur tel parti politique. Là encore, la question qu'il faut se poser au niveau du recul historique. Dans un jeu entre partis, on essaye de détruire l'image de l'autre. On essaye de salir l'image de l'autre. Donc, il est clair, si on prend l'exemple de Le Pen, c'est un exemple historique d'une manipulation pour marginaliser un parti. Alors, quand on regarde comment ça a été fait, d'une manière ou d'une autre, que ce soit ce parti ou un autre, mais le résultat, c'est qu'ils ont été volontairement marginalisés.
Oui,
parce que,
depuis
le début, on les a... Attendez, je voudrais préciser quelque chose d'important. C'est que, dans une vie démocratique, il ne peut pas être exclu un parti.
Ah bah tout à fait.
Et on ne peut pas déchoir un parti, quel que soit, je dirais, son opinion. Le respect de l'opinion de l'autre est fondamental. C'est-à-dire accepter que toi, Zaza, tu penses comme ça, et que Jeanne pense différemment, que Stan pense différemment, que Fred pense différemment,
le débat.
C'est le respect
bien
de
sûr.
La vie démocratique.
Ah
bah
oui,
mais
mais
aujourd'hui,
respecte,
mais dénigrer systématiquement à travers des médias toute intervention par un parti, salir l'image du parti en allant chercher des fausses histoires de cul, des fausses histoires de ci, des fausses histoires de machin, pour salir
Mais c'est valable dans tous les partis, tu le sais bien.
Ça l'a été systématiquement par rapport à ce parti, parce qu'il y avait deux partis qui avaient intérêt.
Ça l'est moins maintenant.
C'est le parti binaire. Enfin, là...
Oui, je trouve que je suis d'accord avec toi, Fred. Je pense que ça l'est moins maintenant.
Le Rassemblement National,
ils ont leurs entrées. J'aimerais justement, à travers ce que tu viens de dire, qui est tout à fait juste, j'aimerais que tous ceux qui nous écoutent entendent qu'à travers les 50 dernières années, il y a eu effectivement cette période où on a totalement marginalisé un parti, ce qui n'est pas démocratique.
Non, mais c'était volontaire de manière à diviser la droite.
Parce que c'est du passé. Pour parvenir sur du passé.
Eh bien, faut en tirer des leçons.
Il faut en tirer des leçons.
Il faut accueillir chacun dans sa diversité.
Mais par contre, on parlait de Villiers, là, le militaire. Et il n'est pas affilié à un parti. Donc, c'est la question, justement.
Tout à fait.
C'est le problème, c'est les partis en France. Aujourd'hui, les partis, c'est des machines à cash. Aujourd'hui, on crée Renaissance, on crée le Modem, on crée le truc.
Puis on a du fric.
C'est juste pour
du
pognon,
parce
qu'à chaque fois que tu mets ton enveloppe, il faut le savoir, c'est 2 euros pour chaque parti. Donc si t'es 2 millions de votants qui te mettent 2... Bah voilà.
Il y a un autre aspect que je vais aborder, c'est les partis qui ont été téléguidés par l'étranger.
Alors,
ça, je pense que, si vous voulez, on n'est pas très conscient, et je pense que beaucoup de Français qui nous écoutent devraient l'entendre, c'est qu'il y a, malheureusement, pour des intérêts internationaux, aux intérêts de certaines puissances étrangères, ces puissances étrangères s'infiltrent à la fois dans des médias, à la fois dans des organismes culturels, à la fois dans les partis politiques, à la fois dans des syndicats, pour orienter la manière de faire d'un pays.
Tout à fait.
Alors, je prends un exemple très précis. Tout le monde se souvient, et même si aujourd'hui c'est déplaisant de le dire pour certains, tout le monde se souvient qu'en mai 68, pour ceux qui ont connu, il y avait Cohn-Bendit qui était à la tête.
Ah bah là,
de dire de la manif. Et Cohn-Bendit, c'est quelqu'un qui était donc trotskiste-léniniste, qui était un écologiste, je dirais, venant d'Allemagne, qui était à fond, je dirais, un instrument de toute la démarche des services secrets soviétiques à l'époque.
Oui, tout à fait.
Les services secrets soviétiques avaient pour objectif, il ne faut pas l'oublier, d'empêcher l'OTAN de gagner la guerre contre le pacte de Varsovie. Et donc il fallait, en Allemagne, déstabiliser complètement tous les militaristes, pour faire de l'antimilitarisme et donc faire de l'écologie et du pacifisme.
Voilà.
Et à partir de là... Ils ont ensuite envoyé, je dirais, ces écologistes pacifistes en France pour effectivement casser toute la fibre, je dirais, patriotique française. Et je pense qu'aujourd'hui, nous payons fortement, et nos enfants peut-être, à cause de l'éducation nationale, le fait que nous n'avons pas un respect de notre pays. Ah bah et ça, que la défense des intérêts fondamentaux de la nation, d'ailleurs, article 40 du code pénal, la défense n'est pas inculquée dans les écoles.
Ah bah d'ailleurs, en parlant de ça, actualité, le service national universel ne sera pas obligatoire.
Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, ce que je veux dire, c'est qu'il y a une véritable politique à refaire dans la prise de conscience que nous sommes sommes une nation, c'est pas une question de patriotisme, mais une nation avec des valeurs, des qualités, des savoir-faire, un patrimoine culturel, patrimoine technique, un patrimoine opérationnel, un patrimoine scientifique, un patrimoine dans le domaine aéronautique et spatial. Et qu'aujourd'hui, cette fierté d'être français, il faut la retrouver. Et je pense qu'il ne faut pas entendre, il faut entendre, parce que je suis très bien placé pour vous le dire, c'est qu'il y a 15 ans, 20 ans, au niveau de l'Allemagne, j'ai assisté à une conférence par un responsable au niveau de la chancellerie qui a dit « Demain, l'Allemagne sera la puissance spatiale et aéronautique ». Et ils ont tout fait pour casser l'organisme, je dirais, de l'aérospatiale puis d'Airbus, qui était le bureau d'études, qui était le cœur du savoir-faire des ingénieurs français pour justement élaborer les avions. Et c'est la France qui a élaboré toute l'aéronautique d'Airbus, à partir de, bien sûr, avant de Concorde, à partir, je dirais, de tous les Airbus que vous connaissez, et a proposé, parce que la France, dans sa naïveté, a proposé de tout partager, plus ou moins, avec, je dirais, les Allemands, les Espagnols, les Italiens, mais sans contrepartie véritable. À un moment donné, je donne un exemple précis, il y a un rapport du Sénat qui le conclut, c'est qu'au niveau des services informatiques qui contrôlaient tout, je dirais, les données sensibles de Airbus, il y a eu effectivement, l'Allemagne a imposé que ce soit une Allemande qui dirige toute la partie cybersécurité.
Oui.
Et au bout de 2 ans, la France s'est aperçue que cette personne avait changé les serveurs. Tous les serveurs, je dirais, qui contrôlaient tous ces bureaux, etc., étaient envoyés dans une société particulière à tel endroit. Et quand les services français ont remonté l'affaire, ils ont découvert que cette société dépendait de la CIA. Voilà. Donc les Allemands, il faut savoir qu'à la chancellerie allemande, il y avait toujours des Américains présents. Donc le président français, à l'époque, a imposé au chancelier allemand que cette personne disparaisse et qu'on remette tout à
des... Voilà, très bien. Merci, colonel.
Mais c'est pour démontrer simplement qu'on est dans ce monde-là où il y a effectivement un certain nombre d'enjeux communs pour effectivement prendre la place des Français dans tel et tel domaine et que demain...
Demain.
Et que demain, effectivement, nous devons être vigilants et que dans toute l'éducation nationale, on doit aider chaque élève, chaque étudiant à prendre conscience de la défense des intérêts de la France.
Et à parler français.
Merci, colonel, de cette intervention.